Pasteur avec le maître. Veuillez vous reporter à 1 Pierre 5. Qu'est-ce qu'un pasteur, selon la Bible? Ayant grandi dans l'église protestante, j'ai toujours considéré que les termes ministre et pasteur étaient interchangeables. Lorsque vous parliez du chef de votre congrégation, vous l'appeliez pasteur. Pour nous, un pasteur était celui qui était chargé d'exercer les fonctions d'un ministre dans le contexte d'une dénomination particulière. Bibliquement, cependant, un pasteur n'a rien à voir avec une organisation, mais il a à voir avec une profession. La profession en question est celle de berger. En fait, le mot pasteur est le même que le mot berger. Un pasteur est quelqu'un qui garde un troupeau. Pierre exhorte ses collègues anciens à servir les gens comme le ferait un pasteur. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Le mot paissez dans ce verset est la forme verbale du mot pasteur. Pierre exhortait ses collègues anciens à paître le troupeau de Dieu, littéralement, les servir en tant que pasteur ou berger. On ne peut pas être berger sans mouton. De même, on ne peut pas être pasteur sans avoir des gens à s'occuper. C'est pourquoi le terme pasteur est toujours utilisé dans le contexte de la prise en charge du peuple de Dieu. Le pasteur est le berger du peuple de Dieu. C'est lui qui met le troupeau au pâturage ou à la mangeoire, sans se soucier du manque ou de l'attaque. Le troupeau dont le pasteur s'occupe est le peuple de Dieu. Dans Éphésiens 4, Dieu désigne les pasteurs comme l'un des 5 ministères de grâce prévus pour l'Église. Éphésiens 4, verset 11. Et il, Jésus-Christ, étant monté en haut, a donné, en répandant par la grâce de Dieu, la capacité spirituelle d'exercer son ministère comme il l'a fait lui-même, en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. La version second 21 offre la traduction suivante de la fin de ce verset, « berger et enseignant ». Chacun de ces 5 ministères de grâce illustre une facette particulière de la vie et du service de Jésus-Christ. Jésus-Christ était-il un berger? Il l'a dit lui-même dans Jean 10. En réalité, Jésus était le maître pasteur. Écoutons ce qu'il en dit. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. L'image que nous nous faisons d'un berger est souvent tendre et paisible, ce qui nous renvoie à l'adorable message des premiers versets du psaume 23. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Mais comme Jésus-Christ l'a clairement indiqué dans Jean 10, le berger a aussi un côté féroce et intransigeant. Lorsque la menace d'un géant philistin a fait trembler les armées d'Israël, le jeune berger David a expliqué à Saül pourquoi il voulait être celui qui affronterait personnellement Goliath. L'intrépide gardien de moutons sans défense a raconté comment, à plusieurs reprises, il avait frappé un lion ou un ours en maraude pour lui arracher un agneau de la gueule et avait réussi à s'échapper lui-même sans doute après avoir tué la bête. Ça, c'est dur à cuire. Mais ce sont là les réalités de la vie d'un berger. Lorsque quelqu'un ou quelque chose tente d'attaquer le troupeau, quelqu'un doit mourir, soit le berger et les brebis infortunés, soit l'intrus. Les talents de guerrier de David, ses convictions profondes et sa confiance inébranlable en Dieu détermineront le résultat final. Un pasteur est l'homme que vous voulez avoir derrière vous en cas de crise, lorsque vous êtes au pied du mur. Un pasteur, c'est le genre de type « pas sous ma surveillance ». Quand tout le monde est prêt à jeter l'éponge, lui ne fait que commencer. Peu après que Jésus a raconté à ses disciples la parabole du bon berger, Lazare tombe malade et meurt, et le maître n'est pas là. Sur le chemin de Béthanie, il annonce aux disciples la nouvelle de sa mort, et Thomas, dans un élan de sympathie, dit « Allons aussi, afin de mourir avec lui ». Mais ce n'était pas le but, et Jésus laisse tomber. Ils arrivent à la maison de Lazare, et chacune de ses deux sœurs salue le maître, déplorant le fait que le frère ne serait pas mort s'il était arrivé à temps. S'adressant à Marthe pour la soulager dans son chagrin, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce à quoi elle répond « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Partageant la douleur de Marie, ils pleurent lorsqu'ils s'approchent ensemble du tombeau. En donnant l'ordre de rouler la pierre, il répond à l'objection de Marthe, la redirigeant vers la gloire de Dieu qu'ils étaient sur le point de voir à l'œuvre. Sans oublier les autres personnes en deuil qui doutent et qui sont présentes, il prie et remercie le Père de l'avoir écouté, même si lui-même n'a pas de doute, afin que les spectateurs puissent croire à leur tour. Enfin, il pousse un cri puissant. « Lazare, sors !» Et il voit littéralement un mort sautiller. Sensible à la nouvelle situation de Lazare, il leur dit de le délier et de le laisser aller pour qu'il puisse marcher sur ses deux pieds. Il est vraiment incroyable de penser qu'un homme puisse être si présent à Dieu et si présent aux hommes que, dans une situation de grande détresse personnelle, il puisse passer de l'un à l'autre, répondant à tous les besoins variés de chaque personne, une à la fois, sans jamais perdre le fil ni se déconcentrer. Mais c'est là notre maître pasteur en action. Nous pouvons maintenant reprendre là où nous nous sommes arrêtés plus tôt, dans psaume 23, pour voir le côté défenseur d'un pasteur. Psaume 23, verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton sont un réconfort pour les brebis, car elles savent que le berger sait comment les utiliser pour les défendre. Le berger n'est pas seulement la porte d'entrée vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Il est aussi le gardien qui se tient sur le chemin de tous les arrivants qui pourraient essayer de faire du mal et de dévaster le troupeau. Nous voyons ces deux aspects, porte et gardien, dans les derniers versets du psaume. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, les verts pâturages, les eaux paisibles. En face de mes adversaires, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la sécurité de la bergerie, appelée ici la maison de l'Éternel, les brebis vivent en sécurité, non seulement pendant la nuit, mais tout au long de leur vie, car le berger est toujours là. Voilà ce qu'est un gardien aimant. Jésus-Christ avait assurément le cœur d'un pasteur ou d'un berger, comme il l'a clairement illustré dans la parabole de la brebis perdue. Luc 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Veuillez vous reporter à Jean 21, passage que nous allons lire dans la version second 21. Le maître pasteur avait une tâche à accomplir en s'occupant du cœur de son disciple Pierre à la suite des événements tumultueux qui ont entouré sa souffrance et sa mort. Nous le retrouvons seul avec Pierre lors de la dernière apparition enregistrée après la résurrection. Jean 21, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Jésus ne pensait plus aux poissons, il est passé aux agneaux. Dans ce nouveau monde, le pêcheur invétéré qui était Pierre devait commencer à penser à une nouvelle occupation, celle de berger. Ils étaient les agneaux de Jésus, mais la responsabilité de Pierre était de les nourrir avec la parole de Dieu. Jean 21, 16. Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Encore une fois, qui est celui que Jésus a chargé de prendre soin des brebis? Pierre, le pêcheur. Jean 21, verset 17, il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Examinons les deux choses fondamentales que Jésus a exhorté Pierre à faire. Numéro 1, nourrir les agneaux de Dieu avec sa parole. Et numéro 2, prendre soin des brebis au nom du Christ. Prendre soin englobe non seulement l'alimentation, mais aussi tout ce qu'implique le rôle de berger. Diriger, guider et garder le troupeau et les faire rentrer au bercail. Prenez un moment pour considérer à quel point les paroles du Christ ont dû toucher le cœur de Pierre. Il s'agit de l'homme qui a renié trois fois le maître, bien qu'il ait insisté auparavant sur le fait qu'il ne le ferait jamais. Comment pouvait-il surmonter la culpabilité qu'il avait dû ressentir à la suite de ses reniements répétés au moment où son maître en avait le plus besoin? Que pouvait-il faire pour prendre un nouveau départ? Le Christ a donné à Pierre trois actions spécifiques pour retrouver son équilibre mental et émotionnel. Nourrir les agneaux, prendre soin des brebis et nourrir les brebis. En faisant cela, Pierre pouvait apprendre à cesser de se concentrer sur ses propres échecs et commencer à marcher sans être condamné. Il y avait une délivrance dans le fait de choisir d'aider les autres, afin que la priorité régulière soit la satisfaction de leurs besoins. C'est la liberté dans le service qui s'ouvre à un pasteur du troupeau. Pierre n'a jamais oublié cette leçon. Le feriez-vous? Quelques 30 ans plus tard, dans sa première épître, il revient sur ce thème dans son avertissement aux anciens de la dispersion ou diaspora, les Juifs qui avaient été dispersés. 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Toutes ces provinces romaines étaient situées sur la péninsule anatolienne ou Asie mineure, ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Il convient de noter ici que la dispersion ou diaspora dont il est question dans ce verset était en fait divisée en 2 groupes, une dispersion occidentale et une dispersion orientale. Ces chrétiens juifs d'Asie mineure faisaient partie de la dispersion occidentale parce qu'ils s'étaient installés à l'ouest de la Palestine. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous donner un peu plus de contexte historique. Le dernier chapitre de cette épître nous informe que Pierre écrit depuis Babylone, le cœur de la dispersion orientale. Il est curieux que Dieu l'ait dirigé vers cet endroit à cette époque de l'histoire de l'Église primitive. Pourquoi? Babylone était située dans le pays entre les fleuves, la Mésopotamie. Contrairement à la Judée, la Mésopotamie n'avait pas été occupée par les Romains. De plus, à l'époque de Pierre, elle abritait plusieurs millions de Juifs qui jouissaient d'une sécurité, d'une prospérité et d'un statut considérable dans leur pays d'adoption. L'Épître aux Galates nous apprend que Pierre était l'apôtre des circoncis. À son époque, les Juifs vivant à Babylone étaient bien plus nombreux que ceux vivant en Palestine, où il n'en restait qu'une 50aine de milliers. En s'installant à Babylone, ils pouvaient atteindre un nombre bien plus important de circoncis. En outre, lorsque Pierre s'est rendu pour la première fois à Babylone, Dieu savait qu'en moins de 10 ans, en l'an 70 de notre ère, les Romains envahiraient Jérusalem et détruiraient à la fois la ville et le temple. Quel aurait été l'avenir du ministère auprès des circoncis si Pierre avait choisi de rester à Jérusalem plutôt que de partir? Veuillez vous reporter à 1 Pierre 5. Afin d'obtenir la meilleure compréhension possible de ce passage, je lirai les versets 1 à 14 à partir de différentes traductions de la Bible. Vous pouvez suivre la lecture dans la version de la Bible que vous possédez. 1 Pierre 5:1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il est intéressant de noter ici que Pierre ne se vante pas de son statut d'apôtre de Jésus-Christ, comme il se qualifie lui-même dans 1 Pierre 1:1. Il parle plutôt de lui comme d'anciens comme eux. Verset 2, traduction de la version anglaise amplifiée. Gardez, nourrissez, gardez, guidez et faites rentrer au bercail le troupeau de Dieu, qui est votre responsabilité. Non pas par contrainte ou par obligation, mais volontairement. Non pas déshonoré par les avantages et les profits liés à la fonction, mais avec empressement et joie. Le mot pour troupeau dans ce verset signifie littéralement « petit troupeau », soulignant que tout ne repose pas sur vous. Tu as ton travail, tu as ta part, tu as ta responsabilité, et le maître pasteur s'occupe de l'ensemble. Alors, reposez-vous. 1 Pierre 5, verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La traduction araméenne du souverain pasteur est « Seigneur des bergers ». Voilà une bonne compagnie. Je veux être un berger sous la garde du Seigneur des bergers. Verset 5, selon la traduction de la version anglaise de la Passion. De même, les plus jeunes doivent soutenir volontiers la direction des aînés. Dans toute relation, chacun de vous doit se revêtir du tablier de l'humble serviteur. Car Dieu vous résiste quand vous êtes orgueilleux, mais multiplie les grâces et faveurs quand vous êtes humble. D'autres traductions parlent de la soumission des jeunes aux anciens. Mais la traduction la plus fréquente de ce mot grec indique qu'il s'agit d'un soutien, d'un appui à leur leadership. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La révérence au lion rugissant n'est pas fortuite. Il s'agit du berger qui protège les brebis des prédateurs. Une note de bas de page dans la traduction de la Passion nous la rappelle. De même que les lions s'attaquent aux faibles, aux jeunes et aux traîneurs, de même, l'ennemi de nos âmes cherchera toujours ceux qui sont isolés, seuls ou déprimés pour les dévorer. Pierre était-il berger? Non, il était pêcheur. Mais il avait appris par la démonstration personnelle du maître ce qu'était un berger. Et dans sa propre vie et son ministère, il était déterminé à ne pas l'oublier. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce message souligne le fait que l'expérience de votre troupeau local n'est pas unique. Il y a d'autres pasteurs et d'autres troupeaux, et vous n'êtes qu'un simple contingent. Mais ne vous inquiétez pas. Le maître pasteur est celui sur les épaules duquel repose le soin de toutes les églises. Alors, vous vous occupez simplement de la partie qui vous revient. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Pierre parle ici d'une expérience de première main. Il est passé d'un homme accablé par le chagrin de ses échecs passés à un champion audacieux et féroce du peuple de Dieu au milieu de la mêlée. Comment? Il avait lui-même été soigné par le maître pasteur et maintenant il allait faire de même pour les autres. Quel message de délivrance! Verset 12. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Sylvain, c'est-à-dire Silas, et Marc séjournaient manifestement avec Pierre à Babylone. Tous deux avaient exercé leur ministère dans les terres de la dispersion occidentale, où résidaient les destinataires de l'Épître. Bien qu'ayant une maison à Jérusalem, la famille de Marc était originaire de Chypre, où il avait exercé son ministère avec Paul lors de son premier voyage missionnaire. Sylvain ou Silas avait également accompagné Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, visitant la plupart des provinces mentionnées dans la salutation de l'Épître de Pierre. Pierre choisit Sylvain, Silas, comme messager pour porter la lettre. Contrairement à Silas et à Marc, Pierre n'avait probablement jamais visité ces régions. D'après les données bibliques, le plus loin qu'il ait jamais voyagé en direction de la dispersion occidentale est Antioche, comme l'atteste Galates 2. La Bible ne mentionne pas une seule fois qu'il ait vécu à Rome. La persécution avait été un facteur en Occident, où les Juifs incrédules avaient poursuivi Paul, Silas, Timothée et d'autres de ville en ville. Les Juifs de l'Est, en revanche, vivaient dans une paix et une harmonie relative avec leurs voisins, et la persécution, bien qu'elle ne soit pas inconnue, était un phénomène rare. Pierre ne pouvait pas s'adresser à la diaspora occidentale en ayant une expérience directe de ces difficultés. Il était cependant convaincu de sa vocation d'apôtre de la circoncision, et c'est à ce titre qu'il leur a écrit parlant au nom de Dieu. La connaissance personnelle des circonstances n'est pas la base du ministère d'un pasteur. Dieu permet au cœur d'un pasteur de franchir toutes les barrières et de se rapprocher avec toutes les personnes, indépendamment de leur lieu de résidence et de tout ce qu'elles vivent et gardent dans leur cœur et leur esprit. Par la puissance de Dieu, un pasteur peut se faire tout à tous, sondant les profondeurs de la compassion déversée par le Seigneur des bergers. Un pasteur est équipé par Dieu pour se connecter avec le peuple de Dieu et pour connecter son peuple avec sa parole. L'épître se termine par ses tendres adieux. 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Nous avons la paix parce que nous connaissons le prince de la paix. En tant que berger du troupeau de Dieu, et en tant qu'ancien faisant le travail d'un berger, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes des pasteurs avec le Maître. Oui, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours.